elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épante face subjectivité et révolution.
Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Victoire Thuaillon.
Le consentement, le désir réciproque, c'est fondamental, c'est la base en fait d'une relation sexuelle. C'est très neuf. Donc moi je pense qu'on vit une époque de révolution romantique au sens où cette culture-là est en train de changer, que ça provoque bien sûr, comme dans toute révolution, beaucoup de heurts, d'incompréhensions et de conflits.
J'ai l'impression qu'en ce moment on a tous et toutes beaucoup, vraiment beaucoup, besoin d'amour. Mais d'un amour qui ne ferait pas mal, d'un amour moderne, libre, politique, qui permettrait à chacun et chacune de s'épanouir comme il l'entend, de sortir des schémas de genre, de se libérer des injonctions à la sexualité, à la reproduction, aux balivernes, des contes de fées. Bref, on rêve tous et toutes d'un amour féministe et c'est compliqué. C'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissante à ma consoeur Victoire Thuaillon du studio Binge d'avoir conçu un podcast entièrement dédié au sujet, le cœur sur la table. Et comme c'est un sujet important, j'ai eu envie de l'inviter à mon micro pour faire un petit tour d'horizon. C'était au début du printemps, on était à l'Opéra de Lyon dans le cadre du festival Femmes Libres et ça m'a fait du bien. Avec Victoire Thuaillon, on a parlé de barbe bleue, de chèvre et de révolution romantique. Bonsoir, bonsoir à vous tous et toutes qui nous regardez devant vos écrans. Bonsoir la salle de l'Opéra de Lyon presque vide devant laquelle nous nous produisons. Victoire Thuaillon, vous êtes journaliste, créatrice d'un podcast absolument pionnier sur les questions de masculinité en France, Les couilles sur la table, un succès colossal. Un podcast qui est devenu un livre sorti en 2019 et qui a eu aussi un succès colossal. Vous êtes précise, brillante, passionnée. Et grâce à vous, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de personnes ont avancé dans la déconstruction des questions de genre. Grâce à vous et aux auteurices, chercheuses et militantes que vous avez reçues, la France a compris des trucs fondamentaux. Genre, il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Ou non, la masculinité n'est pas en crise. Ou encore, oui, le sexisme affecte aussi les hommes. Donc pour ça, du fond du cœur, Victoire, merci. Avec Les couilles, et j'adore répéter les couilles dans un opéra, vous avez exploré les violences sexuelles, les tâches domestiques, la parentalité, le travail, la ville. Et aujourd'hui, avec Le cœur sur la table, votre nouveau podcast, un documentaire dont la saison 1 est diffusée en ce moment, vous explorez l'amour. C'est un podcast magnifique et on va y revenir très largement. Avant ça, je voulais faire une observation. Je la trouve passionnante, la scène qui se produit là. L'exercice auquel nous sommes en train de nous livrer. Nous sommes toutes les deux journalistes. Nous créons des podcasts, des objets culturels ultra contemporains, technologiques, gratuits, accessibles. Et nous sommes ici à l'invitation de l'Opéra de Lyon, une institution vénérable, artisanale, prestigieuse et malheureusement élitiste. Il y a comme un choc des deux mondes, il y a comme une anomalie. Mais il y a aussi une évidence, une logique. Dans le fait de nous entendre, nous, avec nos regards féministes actuels, parler près d'une salle où vont être bientôt joués et diffusés en streaming Le Château de Barbe Bleue, Mélisande ou Ariane et Barbe Bleue, des opéras qui regorgent d'héroïnes puissantes et amoureuses, mais aussi de domination masculine et de féminicide. Alors, je voulais commencer par là, Victoire, et te demander, parce que je renonce tout de suite à te vouvoyer, parce qu'on se connaît trop bien, qu'est-ce que tu t'es dit quand on t'a invité à venir parler d'amour et de féminisme sur la scène de l'Opéra de Lyon ?
Merci, Lorraine. Eh bien, je me suis fait cette réflexion-là aussi, que c'était intéressant d'être invitée à l'opéra où vont se jouer des pièces, donc deux pièces autour de Barbe Bleue, deux opéras autour de Barbe Bleue, qui est vraiment un conte fondamental, je pense, dans nos structures psychiques amoureuses, qui nous marquent depuis très longtemps et qui reprennent des motifs qu'il s'agit maintenant de déconstruire et que les études féministes et les pensées féministes permettent de déconstruire pour inventer de nouveaux récits, j'espère.
Alors, Barbe Bleue, c'est vrai que c'est un personnage qu'on croise dès notre enfance. Hein. C'est un héros de conte de fées dont toute petite fille, tout petit garçon aussi d'ailleurs croise la figure. C'est quand même un homme qui tue méthodiquement toutes ses épouses. Est-ce que tu penses que les représentations culturelles fabriquent la violence masculine ou partiellement ?
Ouais. En fait, évidemment, il y a plein de causes à la violence masculine, mais oui, je pense qu'évidemment, les représentations en sont à la fois la cause et le symptôme. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on nous raconte autant d'histoires avec des contes du Petit Chaperon Rouge, de Barbe Bleue, de La Belle et la Bête, enfin avec des hommes qui sont des figures masculines qui sont dangereuses. Et donc c'est extrêmement intéressant d'analyser ces contes-là avec les lunettes du genre pour voir quel schéma, quel modèle, quel récit en fait nous ont été transmis et ce qu'on en fait. Et par rapport à la figure de Barbe Bleue, pardon, j'ai perdu ta question.
Bah non, mais c'est ça en fait. Enfin, c'est la figure donc d'un homme qui commet des féminicides,
oui.
et c'est à la fois le reflet de la société, mais ça modèle aussi
c'est
peut-être
ça.
Aussi nos imaginaires.
Oui, c'est-à-dire en fait aller voir, ça nous habitue, je pense, à une forme de normalité là-dedans, et surtout que c'est toujours des hommes qui font du mal à des femmes, et donc ça normalise en fait ces récits-là, et je pense que ça. Ça participe en fait à la banalisation et à la normalisation de la violence masculine. Et aussi à cette idée que c'est une espèce de fatalité, quoi. Qu'en fait, en amour, eh bien, on est condamné à souffrir, surtout si on est une femme, et qu'on peut être marié à un type qui assassine une par une ses épouses. Et d'ailleurs, enfin, on a souvent fait les rapprochements entre. Barbe Bleue et Henri VIII, je crois, d'Angleterre, qui avait fait à peu près la même chose à toutes ses épouses qu'il a décapitées les unes après les autres.
Dans les couilles et dans le cœur, je trouve que c'est un bon projet de spin-off. Tu t'appuies souvent sur les représentations culturelles pour illustrer ton propos. Et dans le cœur, tu parles beaucoup de contes de fées. Il y a même un moment où tu humes toi-même la bande-son, le fameux thème de La Belle au bois dormant. Et en fait, ce que tu montres, c'est que ces fictions populaires fabriquent aussi la notion de couple comme idéal. Qu'est-ce que tu démontres en utilisant ce thème-là ?
En fait, oui, dans le podcast Le cœur sur la table, on s'appuie effectivement sur plein de représentations culturelles et de récits et de fictions, puisque ce sont celles-ci qui nous permettent de savoir, avant même de les avoir vécues, à quoi sont censées ressembler des histoires d'amour et qu'est-ce qu'on est censé ressentir. Et il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne faut plus raconter ces histoires-là ou qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais en tout cas de les interroger, de se demander... Quelles leçons on apprend en fait en étant en contact de tous ces récits quelles leçons on apprend par exemple en regardant ou en écoutant l'histoire de La Belle et la Bête. Il y a plein de façons de le raconter. La façon la plus conventionnelle et le sens, le premier sens, celui qui paraît le plus évident, c'est que, et ça c'est commun à tous les contes de fées, c'est quand même que le dénouement heureux ne peut être que ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, que c'est ça ce qui peut nous arriver de mieux en fait, et que c'est ça ce qui est souhaitable. Et ce que ça nous apprend aussi, je pense, comme petite fille, c'est que ce qui va être important dans notre vie, c'est qu'on soit découverte d'une façon ou d'une autre par un prince qui viendra nous chercher. Donc et qui nous forme déjà à un imaginaire de la passivité et de l'attente, et l'idée que notre vie sera justifiée par un homme ou par un amour qui va arriver et qui va nous révéler à nous-mêmes. Pourquoi pas ? Je pose la question de pourquoi c'est tellement genré, cette affaire, alors même que, du coup, quand on est un garçon, on peut quand même apprendre qu'il y a plein de choses qu'on va devoir faire pour ça, hein, et c'est pas du tout une posture d'attente ou de passivité, on va... Et puis, en plus, c'est même pas central dans la quête. En réalité, les héros se battent contre des dragons, vont explorer le monde, font des choses. Et puis, éventuellement, à la fin, il y a une princesse. C'est cool, mais enfin bon, c'était pas exactement ça le sens de leur vie. Et ça paraît très naïf et presque caricatural quand on le dit comme ça, mais moi je pense que c'est vraiment un schéma et un récit qui a encore une emprise très importante dans nos vies, dans nos façons de vivre nos vies amoureuses, de les ressentir. C'est un impact très important sur la façon dont on se raconte ces histoires. Et je vais prendre un exemple trivial et banal, mais il me semble dans ma vie avoir entendu un nombre incalculable de fois des amis plus ou moins proches faire le récit de leur vie amoureuse en reprenant tous ces schèmes-là, en fait, de « je l'ai rencontré et maintenant ma vie en est transfigurée et c'est incroyable et cet homme et bon ». J'ai jamais entendu de garçons raconter des choses pareilles, en fait. Pas du tout. Ils peuvent être très contents d'avoir rencontré des femmes ou être très amoureux et tout ça, mais enfin, c'est quand même pas la même chose de « ma vie a changé et ma vie est enfin justifiée ». Même si je pense fondamentalement que l'amour est vraiment quelque chose qui peut nous transformer, nous métamorphoser, forcément, en fait. Mais je questionne le récit qui en est fait, le récit très genré qui en est fait. Et je pense qu'il y a un grand appétit aujourd'hui pour d'autres récits qui soient moins inégalitaires et qui soient plus riches et plus créatifs et qui nous rendent tous plus heureuses et plus heureux.
En t'écoutant, il y a aussi quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que finalement, l'histoire des contes de fées, c'est toujours celle de la rencontre et puis finalement de l'accouplement, du premier accouplement. Et puis après, à la fin de l'histoire, c'est effectivement, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, comme si justement la difficulté n'était pas dans toutes ces années qui vont suivre de cohabitation de fabrication qui ne sont jamais racontées, qui sont supposées aller de soi, alors que c'est là qu'on rencontre finalement les véritables difficultés et c'est là qu'il faut penser l'amour, quoi. Il y a un énorme vide, en fait.
Je trouve qu'il y a un énorme vide de ces récits sur qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un. En fait, on peut l'expliquer aussi par les mécanismes du récit, de qu'est-ce qu'on considère être une bonne histoire, donc avec des péripéties et des rebondissements et tout ça. Donc on aura l'impression qu'ensuite, une fois qu'on a fait la rencontre, eh bien c'est ce fleuve paisible dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Et peut-être que c'est plus difficile à raconter ce qui se passe ensuite. Peut-être que ça, c'est moins évident comme ça donne moins de matériaux de fiction. Mais je crois qu'on est beaucoup aussi à avoir besoin de ça, de savoir comment on s'aime, en fait, vraiment, après. Qu'est-ce qui se passe? Le succès de A Marriage Story, là, qui était sur Netflix.
Avec Adam Driver et Scarlett Johansson, ouais. C'est incroyable. Ouais.
Et c'est très, très intéressant. Bon, là, pareil, on peut dire que c'est un récit de séparation, il y en a eu aussi, mais ensuite, sur l'amour, la vie d'une relation... Comment ça se passe sur le très long terme? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de récits là-dessus. Ouais. Mmh. Qu'en fait, on s'arrête très souvent effectivement à ce récit simplement de rencontres, de difficultés, de vaincre les obstacles. Et puis ensuite, l'amour devient possible et fin de l'histoire. Mmh. Alors qu'effectivement, c'est ce qui se passe après qui est très intéressant. Mmh.
Dans Le cœur sur la table, il y a un intervenant essentiel qui s'appelle Stéphane Rose, qui est l'auteur de Pour en finir avec le couple. Et c'est ton premier intervenant, la première personne qu'on entend dans le podcast, et qui dit vraiment, littéralement, le vocabulaire qui structure le couple, c'est un vocabulaire en fait politique et religieux. Le religieux a besoin de produire du couple hétérosexuel parce qu'il a besoin qu'il y ait de la reproduction, et le politique a besoin de créer des cellules familiales parce qu'il a besoin de pouvoir contrôler les gens, leur faire payer des impôts, grosso modo, hein, si je résume. C'est assez frappant, en fait. Je sais pas quel est ton impression par rapport à ça.
Quand j'ai décidé de m'attaquer à cette... ou pas de m'attaquer, parce que c'est pas un combat, mais plutôt de mettre sur la table ce sujet des relations affectives, de comment on organise nos vies, nos relations intimes, c'est évidemment une question politique, puisque de la forme que prennent nos relations dépend la forme que vont prendre nos vies. Et le fait, par exemple, que, oui, la famille hétérosexuelle, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est ce que montrent encore et encore plein d'études féministes sur l'économie, sur le fait, par exemple, que notre économie ne tient que parce que les femmes font un énorme travail gratuit, qui est le travail de reproduction, par exemple. Donc le travail non seulement de produire des enfants, mais aussi de les élever et d'effectuer tout ce travail domestique qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas nommé comme étant du travail. Et pour que ce système perdure, il faut bien sûr des structures économiques, mais il faut aussi des récits qui le fassent tenir et une justification à ça. Et il faut par exemple le récit du « c'est ce qui pourra t'arriver de mieux dans la vie ». De te reproduire et de te mettre entièrement au service de ton mari et de tes enfants, permet aussi de faire tenir cette structure-là. C'est-à-dire, tout ce qui existe là n'a pas une seule cause, en fait. Il y a plein de causes qui s'entremêlent et qui se renforcent les unes les autres. Et le récit, la fiction, les valeurs, c'est une colle, en fait, très, très importante pour faire tenir cette structure. C'est ce qui va faire que, par exemple, plein de femmes vont se sentir complètement inadéquates, monstrueuses ou anormales quand elles le ressentent. C'est ce que leur voix intérieure leur dit, que vraiment, ça n'est pas la vie qui les rend heureuses. Elles ne voulaient pas ça, en réalité. Et ce sentiment d'inadéquation peut être très fort, puisque c'est ce qu'on nous a répété toute notre vie, en fait, que une fois qu'on aurait rencontré quelqu'un à aimer, alors notre vie serait justifiée. Et puis quand ça arrive, ça ne suffit pas. Alors on peut remettre en question l'amour qu'on a, remettre en question les qualités qu'on a. Et ce qu'on essaye de faire avec l'équipe du cœur dans ce podcast, c'est pas de dire qu'il y a une solution ou d'autres vies qui mériteraient plus d'être vécues, mais juste de dire qu'il existe toutes sortes de pistes et que peut-être des femmes se sentent très épanouies dans ce récit-là, traditionnel, certainement, mais beaucoup ne sont pas épanouies dedans. Et alors, ça vaut le coup de montrer que ce n'est pas qu'elles ont un problème, en fait. C'est que dans nos récits, il y a un problème. Mmh. Et que tout ça a des effets politiques et crée des inégalités. Et c'est ce qui permet aussi aux inégalités et aux rapports de pouvoir de perdurer. Mmh.
Je trouve quand même que c'est intéressant de voir avec quelle persistance ces contes qui sont vieux de 5, 6 ou 7 siècles continuent d'être transmis. Ou même il n'y a pas très longtemps, je regardais le site leel.fr, les articles les plus lus, ça reste des articles qui concernent la couronne d'Angleterre et les princesses. Et on continue d'ériger cette image de la princesse comme un espèce d'idéal féminin avec persistance, malgré toutes les révolutions féministes qui ont eu lieu entre-temps. Il y a quand même, à mon avis, un enjeu, comme tu dis, politique et aussi économique assez fort, quoi, pour qu'on nous lâche pas les baskets avec cette histoire de princesse. Ouais. Alors, t'es pas la première féministe à t'intéresser à l'amour au prisme du genre. L'écrivaine afroféministe américaine Bell Hooks a dit énormément de choses à ce sujet. Il y a également des chercheuses féministes matérialistes qui s'y sont penchées d'un point de vue plus marxiste, assez historique. Il y a aussi une réflexion sur l'amour dans la pensée du Caire. Alors, je te connais bien, je sais que t'as ingurgité goulûment tous ces contenus et que tu les as digérés. Et comme on est dans une saison de la poudre un peu savante et que t'es journaliste, est-ce que tu peux essayer de nous faire un petit digest, un petit panorama, en gros, de ce que la théorie féministe a pu apporter jusqu'ici sur l'amour?
Ok, je vais essayer. D'accord. Bon, en fait, je crois que toutes les chercheuses ou penseuses féministes se sont intéressées à l'amour, quasiment. Je dirais, donc, des féministes révolutionnaires, des féministes anarchistes. Voltairine de Clare a écrit dessus au 18e siècle. Il y a eu Emma Goldman, beaucoup de penseuses et d'écrivaines et d'autrices féministes. Parce que forcément, comme tu le sais aussi très bien, dès qu'on commence à s'intéresser aux pensées féministes, on applique aussi ces grilles de lecture et ces analyses à nos propres vies. Puisque le féminisme, ça ne parle que de ça, ça ne parle que de la matière de nos vies, de nos identités, de nos affects, de nos relations, enfin bref. Donc en fait, toutes les penseuses féministes, elles n'ont pas pu faire l'économie de la pensée sur leur propre vie et la forme que prennent leurs relations. Simone de Beauvoir a écrit des textes extraordinaires sur l'amour, et même dans la biographie qui lui a été consacrée récemment, il est bien montré et dit à quel point l'amour, c'était une question centrale pour elle, en fait, et la question de qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce qu'est aimer véritablement, c'est vraiment une question centrale pour Simone de Beauvoir. Et donc, dans les grands textes qu'elle a écrits, il y a par exemple, dans Le deuxième sexe, il y a ce chapitre extraordinaire qui s'appelle La femme amoureuse, qui a été écrit en 49, mais vous le relisez aujourd'hui, c'est complètement contemporain, enfin, ça s'applique complètement à la situation que nous connaissons, toutes, enfin, beaucoup d'entre nous. De même, le chapitre La femme indépendante. Ensuite, il y a eu, dans les années 70, la remise en question de l'hétérosexualité, qui n'était pas nommée avant, et donc de cette idée selon laquelle le véritable amour serait forcément entre un homme et une femme. Et là, il y a énormément de penseuses qui ont écrit là-dessus, et donc aussi sur le lesbianisme politique, montrer que d'autres formes d'amour étaient possibles, et ont publié des textes très virulents et assez géniaux. Shulamit Firestone, par exemple, a écrit là-dessus pour dire, et d'autres avec elle, hein, que l'amour, c'était vraiment l'opium des femmes, en fait, que c'était vraiment la drogue qui permettait au patriarcat de perdurer. Et ça, c'est vraiment une idée qui est centrale aussi dans les réflexions que j'ai menées pour Le cœur sur la table, c'est-à-dire cette idée que l'amour, c'est vraiment la pilule qui peut nous servir, qui sert à nous faire avaler la domination masculine, en fait. Mais avec ça, dans les années 70, comme on était aussi en pleine révolution du love power et de réflexion sur l'amour aussi, c'est vraiment, j'ai l'impression, la pensée féministe, c'est aussi un combat pour redéfinir ce qu'est l'amour, en fait. Et du coup, une fois qu'on a dit que l'amour, c'était la pilule qui pouvait nous servir à nous faire avaler et accepter le patriarcat, on peut aussi dire que l'amour, et c'est ce que je crois, moi, redéfinir l'amour, c'est aussi le moyen de lutter contre le patriarcat, en fait. Et ça, c'est une réflexion qui s'est poursuivie dans les décennies suivantes, et j'en oublie certainement plein, je vais être très gênée ensuite à la fin de l'entretien en me disant que je n'ai pas cité une telle et une telle, mais en tout cas, énormément de féministes ont écrit là-dessus. Eva Illouz, plus récemment, en fait, c'est une grande sociologue de l'amour, qui est aussi très influencée par la pensée féministe. Elle a écrit dans les années 90, elle, en examinant avec la pensée économique et les outils féministes, d'examiner comment se formaient les relations amoureuses contemporaines et qu'est-ce qui avait changé. Qu'est-ce que j'ai beaucoup relu aussi, Bell Hooks, évidemment, qui emprunte un langage qui est beaucoup plus... qui est curieux pour nous, lectrices françaises, parfois, parce que c'est y a un rapport à la spiritualité qui est très différent aux États-Unis par rapport à celui qu'on connaît en France. Donc il y a volontiers des élans mystiques, en fait. Mais moi, ça me parle beaucoup, ça aussi. Voilà. Est-ce que tu crois que j'en ai oublié ? Tu penses à certaines ?
En tout cas, ce que je précise, c'est que chaque épisode du Cœur sur la table est accompagné systématiquement sur le site. Il y a une liste, une bibliographie complète qui accompagne chaque épisode. C'est passionnant. En fait, quand on commence à cliquer sur les liens que tu proposes, en fait, on part. Moi, ça m'a un petit peu d'ailleurs détourné de mon travail quand je préparais l'interview parce que je partais. Bref. Donc voilà, c'est en tout cas extrêmement documenté. Et surtout, c'est vrai que j'ai beau avoir énormément lu de théorie féministe ces dernières années, je n'avais pas réalisé ce que tu viens de dire. Parce que finalement, l'amour, c'est une question centrale du féminisme. Oui. Et effectivement, même chez Simone de Beauvoir, on le retrouve partout. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à la femme rompue, la femme amoureuse, la femme indépendante, la femme rompue. C'est intéressant que ça boucle là-dessus. Et puis, on est dans l'ère MeToo, une ère qui est celle de l'audibilité des violences sexistes et sexuelles. On n'a jamais autant parlé de viol dans les familles et à la télé. On n'a jamais autant parlé de féminicide. Et bien souvent, dans les gros titres, dans les médias, ces actes de violence sont associés à l'amour. Voilà, on dit que le grand-père aimait trop sa petite-fille, on dit que c'était un amour passionnel qui a tourné au drame. Et on pourrait se dire que la lutte féministe, en faisant émerger ces mots, salit l'amour. Et toi, c'est pas du tout ce que tu dis, tu viens de le rappeler. En fait, pour toi, au contraire, on est en train de vivre une grande révolution romantique. Comment t'aboutis à cette idée-là ?
Déjà, c'est pas moi qui ai inventé ce terme de révolution romantique intersectionnelle. C'est une jeune autrice qui s'appelle Costanza Spina, qui a fondé le média Manifesto 21 et qui a écrit ce texte manifeste qui s'appelle « Nous sommes en train de vivre une révolution romantique intersectionnelle ». Je trouve ça très juste. Et donc, c'est un thème qui revient dans tout le cœur sur la table pour dire, voilà, en fait, cette révolution romantique, il y a plein de signes à ça, mais... Effectivement, un des combats féministes, là, c'est de montrer à quel point on a associé dans notre culture l'amour et la violence, c'est-à-dire en nommant amour ou en déguisant la violence avec l'excuse de l'amour. Et en cela, le combat pour faire reconnaître que les féminicides, les meurtres d'hommes de leur ex ou de leur conjointe n'avaient rien à voir avec l'amour, mais étaient bel et bien des meurtres. Et donc, et tu connais très bien ce combat-là aussi, le combat de plein de féministes pour faire admettre aux médias, pour faire changer la langue, en fait, pour qu'on arrête de parler de crimes passionnels, pour qu'on arrête de dire qu'on peut tuer par amour, c'est un combat très important, mais qui est juste cette chose-là, enfin, je veux dire, quand on y repense, mais vous vous rendez compte, on a vraiment pu croire ça, en fait.
Ça vient d'émerger. Enfin, ça, je pense aussi aux colleureuses. Moi, le premier collage que j'ai vu dans la rue, c'était « On ne tue pas par amour ».
Tuer n'est pas aimer. Et c'est... Oui.
Ça vient d'arriver, en fait, dans nos cerveaux contemporains, quoi.
Oui. Et dans la continuité de ça, il y a aussi le combat contre les violences au sein du couple. Ou pareil, mais là, on en est au début, en fait. On n'est même pas... On a à peine commencé à gratter la surface de à quel point nos relations affectives sont très souvent entremêlées de violences qui ne sont pas nommées ou qui sont excusées au nom de l'amour. Avec cette idée que si l'amour est fort, s'il est très intense, c'est normal qu'il y ait de la violence, et que, parce que la passion, c'est violent et tout ça. Donc je pense qu'on a, on est juste en train, et ça c'est grâce aux pensées et au militantisme féministe, on est en train de détricoter en fait ces deux choses-là. De même, quand tu reparlais de l'inceste ou de ce qu'on appelle la pédophilie, ça aussi c'est quand même très intéressant, qu'on appelle pédophilie de la pédocriminalité, donc des crimes sexuels contre les enfants, sachant que pédo, ça vient de enfant en grec et philie de philia, qui veut dire l'amour, donc ce serait quand même l'amour des enfants. C'est quand même très révélateur de notre culture, en fait. On a un énorme problème avec notre conception et avec notre culture amoureuse. Et je crois en effet qu'on est en train de vivre une révolution romantique, parce que ce que disent des millions de femmes dans le monde et certains hommes avec elles et des personnes non-binaires et toutes sortes de personnes de plein de façons différentes, c'est on ne veut pas de cet amour-là, on refuse de l'appeler l'amour parce que ça n'a rien à voir avec l'amour. Et nous, on réclame autre chose. On réclame de redéfinir ce que c'est aimer et de retrouver des repères sur ce qu'est l'amour, quelle forme il prend, et aussi que ce n'est pas juste un idéal, mais ça s'incarne dans des pratiques très concrètes qui vont jusqu'à changer nos façons de nous parler et nos façons de nous toucher et nos façons d'être en relation les uns les unes avec les autres. Et donc, on se moque des féministes qui veulent changer le langage ou qui veulent changer les récits, comme si c'était des détails, comme si ce n'était pas important. On se moque de nous quand on dit que c'est vraiment horrible, qu'on veut tuer l'érotisme, qu'on veut tuer la drague et qu'on veut tuer la séduction. Mais moi, comme plein d'autres, et je pense que tu en fais partie aussi, je pense que c'est une époque extrêmement joyeuse, en fait. Je pense que les gens n'ont jamais eu autant de bon sexe que maintenant, en réalité. Même si, bien sûr, perdurent des violences, mais je pense que le fait d'avoir enfin, de se sentir enfin légitime à vivre autrement sa sexualité, à répéter et à entendre répéter que oui, le consentement, le désir réciproque, c'est fondamental, c'est la base en fait d'une relation sexuelle, c'est très neuf, et bien sûr que ça rend les gens, enfin ça crée des relations beaucoup plus égalitaires. Donc moi je pense qu'on vit une époque de révolution romantique, au sens où cette culture-là est en train de changer, que ça provoque bien sûr, comme dans toute révolution, beaucoup de heurts, d'incompréhension et de conflits entre les tenants d'un ancien monde qui trouvaient que le summum de l'érotisme, c'était de ce rapport de domination, là, que vraiment, il n'y avait rien de mieux, il n'y avait rien de plus érotique.
Plaquer une femme contre un mur et de lui voler un baiser, quoi.
C'est tellement hot, les baisers volés, de plaquer les femmes contre les murs, de ne pas leur demander si elles sont d'accord, d'avoir des relations avec des femmes qui ont 20 ans de moins que vous, voire qui sont adolescentes, voire qui ne sont pas d'accord. Enfin, il y a tout un tas de gens encore qui pensent ça. Il y a aussi des femmes qui pensent ça. Bon, nous, il me semble qu'on est dans le camp adverse, où on leur dit, mais en fait, on ne veut plus ça du tout. Et en fait, nous, ce qu'on aime, c'est le désir réciproque, c'est la jouissance partagée, c'est le respect de nos limites, c'est l'exploration ensemble, c'est tout ça. Et aussi le droit de pas avoir de vie sexuelle, par exemple. Le droit de ne pas avoir de vie amoureuse. Et c'est tellement plus riche, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus respectueux de nos individualités et de nos subjectivités.
Et en même temps, c'est un chantier qui est tellement vaste et dont on est vraiment simplement en train de commencer à déterminer les contours. En t'écoutant énumérer toutes les situations, il y avait la notion d'emprise, je trouve, qui est en train de s'imposer peu à peu dans le discours public autour du viol et des violences sexuelles. Enfin, il y a eu plusieurs cas médiatiques ces derniers temps où finalement une femme accusait un homme médiatique de viol et celui-ci répondait non, elle était consentante. Et en fait, on est dans cette espèce de zone grise et je trouve que le simple fait qu'on qualifie de zone grise, cet espace, c'est une espèce d'aveu d'échec, ou en tout cas d'échec temporaire de la société à vraiment encore définir les contours de ça. Enfin, c'est aussi un petit peu décourageant, quoi. Je pense que moi-même, je serais incapable de venir expliquer en des termes simples qu'est-ce que c'est l'emprise, qu'est-ce qui joue dans ces relations-là. Enfin, je sais pas si ça te fait réagir quand je te parle de ça.
Oui, bah, en fait, je pense que les zones grises, bien sûr, elles existent, mais que tout le travail va être de les éclairer et de mieux comprendre ce qui s'y joue, et de populariser la culture de ces réflexions-là, c'est-à-dire qu'on soit tous armés en fait, pour comprendre ce qui se joue dans nos relations. Je pense que en fait, les pensées, les pratiques féministes, ça sert aussi à cultiver nos intelligences relationnelles et à comprendre ce qui se joue dans les relations. Et que, par exemple, on est peu armé pour comprendre les relations de pouvoir qui existent entre deux individus, notamment dans la sphère intime, puisque justement, on a peu fait de l'amour une question politique, puisqu'on s'est accroché à l'idée que l'amour et l'attraction et le désir, c'était qu'une simple question d'affinité entre deux individus ou quelque chose d'un peu magique, alors qu'en réalité, les rapports de pouvoir ne disparaissent jamais Et moi, je dis pas... Je pense qu'il est complètement utopique de penser à un monde sans pouvoir. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à regarder en face ces relations de pouvoir et ensuite, soit faire en sorte qu'elles soient moins fortes, soit faire en sorte de bricoler des cadres pour les prendre en compte. Pas pour dire que ces relations sont impossibles, pas pour dire qu'il ne peut y avoir de relations souhaitables qu'entre deux personnes parfaitement égales, parce que ça, je pense que ça n'existe pas, mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait des inégalités entre nous? Est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, comme un homme de pouvoir, c'est que oui, il doit être conscient du pouvoir qu'il a. Oui, il doit se demander quel effet ça a sur l'autre personne. Et ça, ça fait partie aussi de la révolution romantique, en fait, d'être capable de se situer, d'être capable d'envisager et d'évaluer les relations de pouvoir dans lesquelles on est tous prises et pris. Je ne sais pas si c'est plus clair.
C'est passionnant et c'est super clair.
Et du coup, là-dedans, dans les relations de pouvoir, il n'y a pas que le genre, évidemment. Il y a aussi la classe sociale, il y a aussi l'âge, il y a aussi la notoriété. Bien sûr que ça joue, la notoriété. Il y a aussi des différences de personnalité, des différences de race, des différences... Il y a plein de différences, en fait, qui jouent. Et il faut juste regarder ça. Et ça aussi, pour moi, c'est une démarche de mettre les choses sur la table. Quand on démarre une relation avec quelqu'un, on devrait être capable d'en parler, en fait. De dire ça.
Où est-ce qu'on se situe l'un par rapport à l'autre dans la société ?
C'est quoi les rapports de pouvoir qu'on a entre nous ? Y compris même, en fait, par exemple, j'ai plus d'attractivité physique que toi, je suis plus beau que toi, par exemple. Bah, comment ça joue, en fait, dans notre relation ? C'est pas grave, en fait. Il faut que ce soit nommé, il faut que ce soit dit, et il faut que les deux puissent inventer quelque chose à partir de ça.
Que ce soit mis sur la table et pas balayé vers la sphère du privé, comme ça l'a été, en fait, pendant si longtemps.
Toujours, ouais.
Alors, je ne voudrais pas déroger à la règle de ce qui fait la poudre. Je voudrais qu'on parle un moment de toi, de ce qui fait ce petit cri, de ce qui fait ton intime, de ce qui t'a construite. Mais je sais que c'est une démarche qui te parle parce que tu prends toujours grand soin de te situer dans tous tes travaux. D'ailleurs, j'en souris souvent. Tu commences toujours par dire d'où tu parles, qui tu es. Et tu ouvres ton documentaire Le cœur sur la table par un prologue magnifiquement réalisé dans lequel tu dis beaucoup « je ». Donc, au-delà du fait qu'on le sait, tu es une femme cis hétérosexuelle, bourgeoise, diplômée. Pourquoi toi, Victoire Toyon, pourquoi toi, t'as envie de sauver l'amour ?
Bah, parce que je vois pas très bien ce qu'on a à faire sur Terre si ce n'est aimer. Et d'apprendre à aimer. Et je parle pas d'amour romantique, je parle d'aimer la vie qu'on a, aimer les autres et aimer la planète. Et aimer la nature parce qu'on en fait partie. Pour moi, c'est un sens spirituel profond, en fait, de faire ça. Et la bande-annonce du cœur sur la table commence par un jour on va mourir, un jour je vais mourir, un jour on va mourir. Et à la fin de notre vie, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus important que d'aimer et de s'aimer. C'est. Alors, peut-être, et je pense que ça, c'est une croyance qui vient de très loin. Je sais que ça paraît très naïf quand je le dis comme ça, et c'est presque enfantin, mais on n'a pas le temps de se détester, en fait. On n'a pas le temps de se faire du mal les uns les autres, de se dominer. Peut-être c'est aussi un fond d'éducation catholique qui me reste de ça, que je renie pas. Mais voilà, ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que l'amour tient une grande place dans ma vie, comme j'explique dans le prologue, puisque j'étais socialisée comme une fille et que l'amour est encore quelque chose codé comme féminin dans notre culture. Et que tout ce qui peut concerner l'amour et les relations affectives me passionne depuis longtemps. Que c'est un sujet sur lequel je réfléchis aussi beaucoup dans ma propre vie. Et que j'estime que toutes ces conversations et ces lectures et ces efforts pour se comprendre, pour comprendre les autres et tout, ont de la valeur. Et que je pense que c'est un sujet très sérieux, en fait. Et que les femmes, pour énormément de raisons, ont une expertise là-dessus qui n'a pas été assez valorisée, je pense. Ou plutôt qui a sans arrêt été dévalorisée en disant que c'était des histoires de bonnes femmes, des trucs pour les magazines féminins, des cancaneries, qu'elles se prenaient trop la tête et tout ça. Alors que, il me semble, parce que a été assigné aux femmes ce travail de care, c'est-à-dire aussi de prendre soin des relations avec les autres, et bien qu'il y a une expertise en fait qui vient de ça et qu'il s'agit de la valoriser, et que si elle était plus valorisée, le monde irait vraiment beaucoup mieux, en fait.
Mais d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu poses dans ce prologue. C'est aussi que tu veux te parler de l'amour comme fait social. Et c'est en fait aller à contre-courant de ce qui a été fait généralement de l'amour, c'est-à-dire qu'il a été naturalisé. Par exemple, l'amour maternel, que les femmes sont supposées ressentir de façon quasiment automatique, tout comme l'amour romantique, nous tomber du ciel un beau jour comme la grâce de Dieu. Et ce que tu fais, c'est aussi ça, c'est de venir aussi... mentaliser, rationaliser, scientifiser presque ce fait-là. Et c'est quelque chose que tu fais bien, je crois, non ?
Alors, je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, ça me paraissait important de montrer que dans notre pensée amoureuse, il y a de l'idéologie et de la faire apparaître. Et du coup, encore une fois, de contribuer à cet effort de redéfinition de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail, ça va consister à dire ce qui n'est pas de l'amour et ce qu'on nous a fait prendre pour de l'amour. Et puis, ça va être aussi de montrer tout ce qui est de l'amour et qui ne porte pas encore ce nom. Que par exemple, dans l'amitié, il y a énormément d'amour. Et que dans le soin, justement, y compris le travail de soins très concret, dans les métiers du care, il y a de l'amour aussi. Et que ce n'est pas une réflexion purement théorique sur l'amour, c'est une réflexion aussi pratique de c'est quoi aimer, en fait, au quotidien. Dans nos vies, ça s'incarne comment ? C'est quoi des pratiques aimantes ? Et on a besoin de ça. J'en suis vraiment convaincue. Et pas juste de se dire qu'on s'aime ou de discours sur l'amour ou de grandes théories, etc. Mais à quoi ça ressemble ? Parce qu'encore une fois, oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais. On fait comme si l'amour maternel, c'était inné et tout. Bon, déjà, le débat entre l'inné et l'acquis est complètement caduque. Plus personne ne pense en ces termes-là. Enfin, c'est pas... Parce que, par exemple, bien sûr qu'en tant qu'être humain, parce que nous sommes des êtres vivants, parce que nous sommes des êtres mortels, parce que nous sommes vulnérables, nous avons besoin de donner et de recevoir de l'amour. Et ça, ça s'incarne de façon aussi dans nos corps. Enfin, c'est presque biologique, c'est un besoin. Bon. Mais après, c'est la forme qu'on lui donne, la traduction qu'on lui donne, ce qui est vu comme acceptable ou non. Et de ça, on a besoin de parler. De comment ça peut s'incarner très concrètement l'amour. Voilà.
Dans l'épisode 4, tu interviews une docteure en neuropsychologie qui s'appelle Ginevra Uguccioni. Elle a écrit Le couple, la famille en héritage. Et elle explique en fait que ce sont les croyances familiales qui conditionnent en grande partie nos vies amoureuses. C'est vraiment une vraie révélation de l'écouter parler et de voir comment notre enfant intérieur vient toujours interférer avec la façon dont on relationne avec l'autre dans les relations romantiques. Toi, dans quel type de croyances familiales sur l'amour t'as grandi ?
Je voudrais juste dire un truc en préambule, c'est que vous voyez, par exemple, quand on parle de tous ces mécanismes psychologiques et tout, je trouve ça passionnant, il faut les avoir en tête, mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être de les politiser. Ouais. C'est-à-dire, on sait, bien sûr, que notre façon d'aimer et d'être aimé est marquée par l'amour que nous avons reçu enfant. Mais cet amour que nous avons reçu enfant, il est aussi marqué par le contexte social et idéologique dans lequel nous avons grandi. Je veux dire, ça n'est pas innocent dans nos vies amoureuses. Le fait qu'on ait beaucoup été élevé dans des familles de type patriarcal, en fait, ça va avoir des conséquences. C'est pas juste que notre papa il nous aimait pas ou que notre maman elle était soumise et tout parce qu'ils étaient comme ça comme individus. Ils étaient aussi comme ça parce qu'ils sont aussi construits socialement. Et c'est ça que j'essaye de faire sans arrêt dans le cœur sur la table, c'est de politiser le savoir psychologique. Bon, voilà, ça c'est une chose. Moi j'ai grandi dans une famille de type patriarcal aussi, très marquée par le patriarcat en réalité. Et donc, comme je le raconte dans cet épisode, par un père qui était très souvent absent et qui, en tout cas, respectait le rôle patriarcal d'un père qui ne s'investit pas dans les relations familiales ou de façon lointaine ou autoritaire. Et à la fois, je n'ai pas passé du tout la majeure partie de ma vie avec lui. Donc, moi, j'ai été marquée par un amour maternel qui était... très présent, mais qui était aussi l'amour d'une femme qui était elle-même marquée par le patriarcat. Et qu'il a fallu, nous deux, ma mère et moi, apprendre à créer une relation émancipée de ces carcans-là, et non pas de se penser en ennemi, mais de se penser en... de penser notre condition féminine de concert. Voilà. Et c'est un amour qui était très ambivalent. Et ce n'est pas non plus un hasard que je me sois intéressée ensuite à toutes ces questions, puisque si l'amour était présent, il était aussi entremêlé de beaucoup de violence. Voilà. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose. dans l'entretien qui suivra avec Chloé Madesta, dans le podcast, il explique ça, c'est une personne non-binaire qui explique ça de façon magistrale, que si on est énormément à avoir été traumatisé ou maltraité dans notre enfance, en fait, on est vraiment beaucoup, c'est pas du tout des situations marginales, que ça a des impacts très profonds sur nos psychés par la suite. En réalité, en travaillant ça, on peut aussi en faire des forces, je crois à ça.
Moi aussi. Alors, tu as vécu un truc complètement dingue dans ta vie, que tu expliques très longuement dans un épisode de Pardon Maman, que j'invite tout le monde à écouter. Après avoir fait Sciences Po et avant de te lancer dans ta carrière de journaliste, tu es partie t'exiler un an en Andalousie, où tu as trait pendant un an 60 chèvres chaque matin. 60, hein, c'est bien ça le
à
chiffre.
La main, oui.
À la main. Et tu dis dans le documentaire Dans le cœur que cette expérience-là, en particulier, a modifié ton rapport à ton propre corps. Que grâce à cette expérience, à ces chèvres, tu es sortie d'un état de détestation de ton apparence, dans lequel beaucoup de femmes et de personnes sexisées sont plongées, et que ça a un impact direct sur les relations amoureuses par la suite. Je voudrais que tu nous démêles tout ça, cette histoire de chèvres, de corps et d'amour de soi.
Alors, c'est vrai, j'ai fait ça. Et en fait, ça n'a pas eu que un impact sur mon propre corps. Ça a vraiment complètement changé ma vie, puisqu'il s'agissait de vivre avec une quarantaine de personnes qui, elles-mêmes, avaient énormément travaillé sur elles et sur les relations. Donc, en fait, il y a une partie de ce que je raconte dans Le cœur sur la table ou de mon intérêt pour ces pensées-là qui vient de cette expérience. Puisque la question, encore une fois, fondamentale, c'est comment s'aimer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vivre les uns les unes avec les autres sans s'entretuer. Et je trouvais que vivre en communauté, c'était une bonne idée pour commencer à apprendre ça. Et donc, effectivement, je me suis occupée d'un troupeau de chèvres. Et c'était une période où je sortais d'une expérience à la télévision et j'ai été élevée comme une bonne petite fille hétéro dans une société qui valorise quand même énormément l'apparence des femmes et un certain type d'apparence. Et effectivement, moi, j'étais dans une forme de haine de mon apparence et de mon propre corps assez violente, mais très banale aussi, je crois. Ce sont des expériences que beaucoup de femmes ont faites et continuent à faire, qui sont de pleurer quand on se regarde dans un miroir, de trouver qu'on est vraiment monstrueuse, de trouver qu'on est trop grosse, d'avoir sans arrêt une voix dans notre tête qui nous dit qu'on est vraiment dégueulasse, qu'on est horrible, qu'on peut... Enfin bref, c'est vraiment un état d'aliénation par rapport à son propre corps qui, je pense, joue un énorme rôle dans la domination masculine et dans la soumission, en fait, féminine. C'est-à-dire que c'est si difficile de sentir ce qu'on veut, nos propres désirs, de sentir qui on est et tout, quand une partie de notre espace mental et de notre énergie est consacrée à se détester et à se juger en permanence sur notre apparence physique. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand ça, les théories et les pratiques féministes, moi, m'ont sauvée en me permettant d'avoir un autre rapport à mon corps, mais aussi, effectivement, cette expérience en Andalousie, puisque... Eh bien déjà, il n'y avait plus cette expérience de la télévision, donc plus de rapport à ma propre image. Ensuite, parce que les gens avec qui je vivais avaient un autre rapport à leur corps aussi. Et puis parce que tout simplement, de façon assez étrange, je passais beaucoup de temps avec des animaux aussi facétieux que des chèvres.
Les chèvres sont facétieuses.
Les chèvres sont diaboliques, en fait, mais elles sont très drôles. Non, c'est presque anecdotique, mais enfin, pour moi, c'était très important. C'était de me dire, mais que se passerait-il si j'avais le même rapport à mon corps, moi, en tant qu'humaine, que ces chèvres ont au leur? Je me suis dit, est-ce que moi aussi, je pourrais, comme ça, me foutre d'avoir une corne tordue et trois poils blancs sur le haut du front et les mamelles pendantes et dissymétriques? Parce que vraiment, elles ont l'air d'en avoir rien à faire. Alors, je pourrais peut-être essayer d'être un peu plus chèvre dans ma vie. Et ça m'a aidée. Oui. Et bon, je le raconte aussi là parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de liens à faire entre la forme que prennent nos relations entre humains, mais aussi la façon dont on conçoit les relations avec les animaux et la nature, et ce qu'on appelle la planète, dont on fait aussi partie. Et c'est ça aussi qu'on va creuser dans Le cœur sur la table, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des liens très forts à faire entre l'amour et l'écologie. Voilà, entre nos vies affectives et la nature, ça joue énormément. Mmh. Voilà.
En tout cas, moi, ce qui me fascinait, c'est cette histoire de corps. Et c'est vrai que, enfin, alors, pour, je vais donner les coulisses. Moi, je n'ai pas encore écouté toute la fin, mais tu m'as fait le privilège de partager avec moi ton découpage. Donc, j'en ai eu un petit aperçu. Et c'est vrai que cette idée de le rapport à nos propres corps, et je pense qu'il n'y a pas une femme ou une personne, en tout cas socialisée en tant que femme, qui échappe à cette détestation de son corps, quelle que soit son apparence, quel que soit vraiment son milieu. Et ça m'a fait penser, enfin, pardon de donner des références aussi pop culture, mais à RuPaul qui dit dans chaque émission de RuPaul Drag Race, « If you can't love yourself, how can you love anyone else ?» Si on ne peut pas s'aimer soi-même, comment peut-on aimer qui que ce soit d'autre ? Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental, en fait, qui se joue dans cette espèce d'injonction qu'on a à d'abord être extrêmement critique vis-à-vis de soi et du coup à être incapable de laisser se poser véritablement un regard bienveillant sur soi, même à accepter en fait que quelqu'un nous dise qu'on est belle, par exemple.
Oui, bah oui, mais tu as bien sûr, et c'est pour ça que quand je dis que ce documentaire est sur l'amour, c'est aussi sur l'amour de soi, sur ce qui va l'empêcher. Et je pense que par exemple, la culture patriarcale mutile très fort et très profondément nos possibilités d'amour propre pour les hommes, pour les femmes et pour les hommes. Vraiment. Et ça me brise le cœur. Et c'est comme ça que je suis devenue féministe aussi, en me disant on mérite tellement mieux, en fait. On mérite... On devrait avoir le droit, en fait, de s'aimer et de s'accepter. Et on ne devrait pas être mutilé si jeune par les injonctions sexistes. Vraiment, on n'a pas le temps pour ça.
Ouais.
Et ensuite, maintenant, il s'agit de le réparer, ensuite, de prendre conscience de la mutilation et puis de faire en sorte de soigner ces blessures-là. Et je pense que, par exemple, une des façons de le combattre, par exemple, voilà, ça aurait été pour moi de me dire « Mais non, mais en fait, je suis belle. » Ou en fait, et je l'ai fait aussi pendant un certain moment, de m'acharner à essayer de ressembler à ce à quoi j'étais censée ressembler. Donc, en fait, au canon de beauté des magazines, par exemple. Et puis, en fait, on voit à quel point c'est vain, parce qu'en fait, on n'y arrive jamais, en réalité. Donc, en fait, il faut complètement changer de lunettes par rapport à ça, et donc recréer un autre rapport à son corps, qui ne soit pas un rapport objectifiant. Or, je pense que beaucoup de femmes vivent dans leur corps comme si leur corps était des objets dont elles devaient s'occuper, qui étaient leur ennemi, comme si elles étaient séparées de leur corps, comme si nous étions séparés de nos corps, alors que nous sommes nos corps. Et c'est absurde, quand on y pense, de les haïr. Et c'est si triste. Et c'est politique comme question. C'est pas qu'une question pour être mieux avec soi-même, être dans plus de bien-être et tout. C'est politique, en fait, de faire ça. Ça aussi, c'est un axe important du cœur sur la table, c'est de dire toutes ces pensées-là de self-help, de psychologie, de arranger ses relations avec les autres, de mieux les vivre, de les vivre de façon plus harmonieuse. C'est pas quelque chose juste pour qu'on soit mieux dans nos vies, là, dans nos petites vies, en fait. C'est politique aussi de faire ça, si c'est accompagné d'une pensée politique. Voilà.
On est dans le corps et on va aller vers l'esprit. Moi, le truc que tu as fait, que je kiffe le plus, c'est Mental et Femme, un documentaire que tu as réalisé pour Arte Radio. Franchement, je pense que je l'ai écouté 3 ou 4 fois. Enfin, il y a quelque chose de vraiment jouissif dans l'écoute de ce docu. Tu as été d'ailleurs récompensé du Grand Prix Nova en 2019 pour la fiction radio. Donc franchement, allez l'écouter, c'est un bijou. Et j'ai retrouvé dans le cœur ce qui fait ta signature dans ce docu, ce sont ces petites voix dans ta tête qui susurrent, qui crient, qui commentent, qui se contredisent, qui s'engueulent, ou qui chantent d'ailleurs, qui te foutent des doutes, qui te jugent, etc. Pourquoi tu es obsédée par ces voix dans ta tête?
Merci de l'avoir entendu, ça, déjà. Eh bien, vous n'avez pas des voix dans vos têtes, vous?
Bah si, c'est ça qui est génial. C'est quand on écoute Mental FM, on se rend compte, en fait, qu'on les a aussi, ces voix, quoi. Exactement.
Eh bien, ça m'intéresse parce que ça montre bien qu'on n'est pas des purs individus et que on n'est jamais tout seul à l'intérieur de soi et qu'on a et que on est comment dire on est habité en fait par les autres et par les relations avec les autres et que d'identifier ces voix-là ça, et de les entendre, ça nous permet aussi de nous rendre compte de ça, éventuellement de prendre des distances avec ces voix-là. C'est-à-dire, je pense que on est beaucoup, et moi aussi, enfin, en tout cas, à vivre avec des voix qui ne sont pas très gentilles, en fait, avec nous-mêmes. Et ça, c'est un travail de base qu'on fait en psychologie, ou c'est aussi un travail de base du travail sur soi, c'est d'identifier que nous racontent ces voix, et est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'elles racontent. Et je pense, par exemple, que de grandir comme une femme dans une société patriarcale, c'est d'avoir intériorisé une voix patriarcale. Et c'est cette voix-là qui est en train de nous dire qu'on est nul, qu'on est grosse, qu'on ne mérite pas d'être aimée parce qu'on n'est pas comme il faut, et qu'on n'est pas une femme comme il faut, et qu'on parle trop fort, et qu'on est trop ceci, et trop cela, et tout ça. Et ces voix patriarcales, c'est comme les voix de la société, c'est ça que je veux faire entendre aussi. Mais ça peut être aussi les voix de ce qu'on nous a dit quand on était petit, et ces mêmes voix de ce que nous racontent nos parents quand on était petit, elles sont aussi influencées par, encore une fois, la culture patriarcale. Donc, en fait, tout ce travail sur soi, pour moi, il consiste à se dépatriarcaliser, en fait, de l'intérieur, et ça peut passer par identifier ces voix et ces discours qu'on prend comme vrais, parce que ce sont nos pensées, alors qu'on pourrait aussi apprendre à s'en détacher et à s'en moquer. Et donc, c'est aussi moi, une de mes façons, dans mon travail, de m'en moquer, de les mettre à distance et de les faire entendre explicitement, et dans Mental FM, apparemment, c'est l'effet que ça a fait à plein de femmes. Les mecs ont détesté en général.
C'est vrai.
On trouvait que vraiment ça n'avait aucun intérêt. Mais par contre, beaucoup de femmes ont aimé et m'ont dit ah, c'est dingue. En fait, moi aussi, ça raconte ça dans ma tête, mais j'en avais pas vraiment pris conscience en fait avant de les entendre vraiment. Et donc, les œuvres, enfin, la pensée, les œuvres et tout féministes peuvent aussi servir à révéler des choses qu'on savait toutes et qu'on n'exprimait pas.
Ouais.
Alors j'espère contribuer un tout petit peu à ça aussi.
Mais ça me fait penser, j'avais pas fait le rapprochement, mais on dirait aussi la description du stream of consciousness de Virginia Woolf, quoi, le flot de la pensée.
Oui.
Merci pour le petit. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que la tentative qu'a fait Virginia Woolf pendant toute sa vie, c'est-à-dire de retranscrire quasiment littéralement le flot de pensée qui est dans notre tête. Mais il y a aussi un moment où, enfin, on sait que Virginia Woolf a malheureusement pas trouvé le bonheur en étant dans cette espèce de quête effrénée de vouloir à tout prix transcrire ses pensées, les attraper et les comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'obsessionnel qui peut devenir aussi néfaste et empêcher un lâcher prise ou une connexion avec justement moins le mental et plus le cœur, je ne sais pas.
Bah oui, nous nous connaissons bien, toi et moi, Lorraine. Eh bien oui, je pense qu'une des marques de cette mutilation de la socialisation de genre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carole Gilligan, qui est une immense penseuse féministe et psychologue, qui dit que la pensée patriarcale, c'est aussi celle qui sépare le corps de l'esprit et qui sépare les émotions de la raison. Or, les émotions, c'est aussi de la pensée. Et quand on s'en coupe, on pense mal. Or, il n'y a que cette pensée-là qui est valorisée aujourd'hui, la pensée ultra-rationnelle, et que de faire cette révolution féministe, c'est aussi de revaloriser nos émotions et de relier les deux. Et moi, je suis aussi très marquée par ça. Et tout le travail que j'essaye de faire en ce moment, c'est... Moi, je me suis réfugiée dans quelque chose de très cérébral. Et alors, j'essaye de récupérer des parties de moi qui sont plus émotionnelles maintenant et donc plus vulnérables, mais qui rendent aussi plus fortes, du coup. Mmh. Et j'essaye de faire ça, justement, pour pas se réfugier entièrement dans la mentalisation, dans son mental... Et donc, dans cette pensée qui reste assez pauvre si elle est uniquement rationnelle.
On va y arriver.
Mais je pense. et que quand... Aussi, ce qu'on voit, j'ai l'impression, c'est que Carole Gilligan parle de ça, de quand on récupère, en fait, quand on guérit de ses mutilations, quand on récupère sa voix propre, la voix qu'on avait avant qu'elle soit mutilée par la socialisation de genre, les hommes comme les femmes, ça donne ces voix qui sont très solides d'une façon dans la pensée rationnelle, mais qui sont aussi très émotionnelles. Et on le sent tout de suite dans nos corps. Et là, je pense à la voix d'Adèle Haenel, par exemple, à la voix de Greta Thunberg, à la voix d'énormément de penseuses et d'activistes féministes ou écologistes, etc., qui arrivent à relier les deux parce que leur action et leur pensée est animée par leurs émotions et par leur corps. Et ça se sent, je trouve.
Ouais, et la puissance est là. Ouais. Et ça m'évoque aussi ce qu'avait dit au micro de la poudre Gloria Steinem, qui disait qu'en fait, bien souvent, on confond la colère des femmes avec de la tristesse. Enfin, c'est aussi très, très difficile, en fait, pour une femme, par manque de modèle et de représentation, d'exprimer correctement ses émotions. Mm-hmm. Que parfois, la colère fait couler des larmes, ce qui donc donne une impression de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une rage très puissante qui est en train de monter, oui. Qui a un énorme travail à faire, je pense aussi, de la part de la société pour lire correctement les émotions qui s'expriment. Je pense que, enfin, tu parles d'Adèle Haenel, quand on regarde l'émission sur Mediapart, il faudrait en fait faire un travail énorme, vraiment de presque de comportementaliste pour décrypter correctement toutes ces émotions qui passent sur son visage et dans sa voix quand elle s'exprime, et on n'est pas habitué à le faire, quoi.
Oui, et puis surtout, je crois, et là aussi, quand on, je crois que quand on, il y a plein de gens là qui s'intéressent à comment mieux ressentir leurs émotions, comment mieux les exprimer, etc. On pourrait dire que c'est nombriliste comme travail, que c'est, et ça peut l'être, ça peut aussi, je veux dire, être quelque chose, par exemple, si on apprend à mieux maîtriser ses émotions pour être plus performant au travail, tu vois. Ou genre apprendre à faire de la méditation pour voilà, être un meilleur salarié, être plus productif, ou je sais pas quoi. Ça me semble pas être très intéressant, mais par contre, que tout ce travail là sur nos émotions pour mieux les comprendre, mieux les exprimer, mieux les communiquer, mieux les ressentir et tout, ça peut aussi être un travail révolutionnaire et un travail politique. De toute façon, de base, je pense vraiment que le travail sur soi peut être un travail révolutionnaire, en tout cas en fait partie, qu'on pourra pas faire de révolution si on fait l'économie de ça, d'un travail sur nous-mêmes et donc sur nos émotions. Apprendre à les exprimer, à les ressentir, à les prendre en considération. Et là encore, la socialisation genrée opère aussi une mutilation importante sur nos capacités émotionnelles. J'ai souvent répété dans Les couilles sur la table et aussi dans le livre que grandir et être élevé comme un petit garçon, c'est faire l'apprentissage du manque d'empathie, d'un manque d'empathie et d'un manque de sollicitude. Et que ça veut dire ça, devenir un homme, en fait. Ça veut dire apprendre à faire semblant de ne pas savoir ce que les autres ressentent et apprendre à s'en foutre, en fait, de ce que les autres ressentent. Et que c'est ça, la masculinité, là, c'est ce truc d'invulnérabilité, de toute façon, je m'en fous. Je ne comprends pas de quoi les autres ont besoin, je ne comprends pas leurs besoins émotionnels, et d'ailleurs, je ne comprends pas les miens non plus, en gros. Et c'est gravissime, en fait, de vivre des vies comme ça. C'est vraiment des vies nulles et qui font beaucoup de mal et qui sont nuisibles, en fait. Et qu'on devrait, je l'espère, je pense, arriver à contrer ça ensuite. Et que du côté des femmes, c'est un autre type de mutilation psychique et émotionnelle qui s'opère, qui sont effectivement l'interdiction d'exprimer sa colère, la honte des larmes, la honte de sa propre puissance. Et que c'est terrible. Pareil, c'est des vies qui sont à moitié vécues et on mérite tellement mieux.
Bah là, tu es en train d'arriver exactement à l'endroit où je voulais qu'on tombe maintenant, parce que j'avais envie qu'on parle de Liv Strömquist.
Oui.
Donc, il y a cette autrice de BD suédoise. Alors, c'est des BD qui sont quand même très, très riches, hein, presque des dico quand on va vraiment lire tous les mots qu'elle écrit.
C'est très important.
Voilà, c'est très, très, très fouillé avec énormément de références. Je pense qu'il y a deux BD qu'énormément de femmes de notre génération, même si on a un petit peu d'années d'écart, qui les ont lues. Les sentiments du prince Charles et La rose la plus rouge s'épanouit. Alors, pour chacune de ces deux BD, elle part vraiment de faits de la pop culture. Cette interview du prince Charles qui avait suivi son mariage avec Diana, on lui a demandé s'il était amoureux, il répond oui, enfin, après l'amour, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, Leonardo DiCaprio qui enchaîne les conquêtes blondes, top modèle, toujours plus jeune, et puis on ne sait jamais vraiment en fait, s'il va s'attacher, s'il voit vraiment la différence entre toutes ces femmes. Et à partir de là, elle s'engage dans un constat qui est extrêmement déprimant, en fait, où on a l'impression que finalement, dans la structure contemporaine de l'amour et des relations amoureuses, les femmes sont prises au piège. Je sais que c'est une lecture qui a été vraiment à la source de ta réflexion sur le cœur sur la table. Toi, t'en as tiré quoi de la lecture de Liv Strömquist ? Parce que moi, vraiment, ça m'a déprimée, en fait.
Oui, moi aussi. D'ailleurs, je suis pas toujours d'accord avec elle.
Ouais.
Voilà. Bon, plein de choses. D'abord, je pense vraiment ces deux bandes dessinées là sur l'amour, les sentiments du prince Charles et la rose la plus rouge s'épanouit, c'est magistral hein, comme travail. C'est très important. En fait, elle est. Moi, je me retrouve vraiment dans cette démarche là. Et d'ailleurs, elle inspire beaucoup le travail que je fais. Enfin, je prétends pas du tout atteindre ce niveau là, mais je veux dire, cette démarche là de dire en fait ce que nous vivons dans nos vies affectives et intimes, c'est politique, ça ne concerne pas. Que nous, ça dépend des structures sociales dans lesquelles on s'inscrit. Non, c'est des travaux importants qui, moi, m'ont ouvert les yeux sur, ben justement, sur les effets que la socialisation masculine a sur l'hétérosexualité et ont sur ce qui est considéré comme normal dans les relations hétérosexuelles, en fait. Et que ça n'est pas obligé de rester comme ça. Et que, du coup, je pense que là, par exemple, MeToo, ça s'est vraiment attaqué à la domination sexuelle dans l'intimité. Et je pense qu'il y a un autre front qui est en train de s'ouvrir maintenant, qui est sur la domination affective, en fait.
Ouais.
Et sur à quoi est-ce qu'on est prête à renoncer au nom de l'amour ?
C'est ça.
Voilà. Et
à quoi même c'est pire ce que tu dis. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est un petit peu. J'ai hâte d'arriver au bout de ton docu parce que finalement tu pars du principe qu'on va forcément devoir renoncer à quelque chose. Tu pars du principe ça ne fonctionne pas et je pense que c'est là où on a toutes abouti, toutes et tous d'ailleurs abouti après avoir lu ces BD. Ok, ça marche pas. Constat d'échec total. Il faut qu'on renonce à quelque chose. On renonce à quoi? On renonce au couple. On renonce au sexe. On renonce à la fidélité. On renonce à la cohabitation. On renonce aux enfants. Et en fait, finalement, j'aimerais bien que tu me dises à quoi il faut qu'on renonce, mais tu sais peut-être pas encore.
Mais je pense surtout qu'il faut tout réinventer. On peut le faire. Et je pense que nos relations vont prendre des formes dont nous n'avons même pas idée. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, que entre les hommes et les femmes naîtront des relations dont nous n'avons même pas encore idée. Et que le plus beau est devant nous, quoi. Vraiment, j'en suis sûre.
Et ça, t'en es convaincue parce que t'es vraiment en train de faire. T'as une méthodologie très particulière pour ce documentaire, c'est que t'as été chercher beaucoup de voix. Hein. T'as suscité des témoignages. T'as reçu beaucoup de tapes, enfin de petits messages vocaux, de mails. Tu t'es déplacée. T'as créé des cercles de parole. D'ailleurs, tu vas inviter les gens dans le cours du documentaire à recréer ces cercles de parole. Et donc, du coup, tu entends en ce moment beaucoup d'histoires de couple. Et tu m'as dit tout à l'heure que t'avais énormément d'espoir. Est-ce que tu as un exemple qui te vient à l'esprit, une histoire qui nous redonnerait de l'espoir d'un comportement de couple qui te fait dire ça va aller, on va trouver.
Je reçois plein d'histoires de gens qui expliquent toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Et en fait, ce qui me donne de l'espoir, c'est... Non, j'aurais du mal à te raconter une histoire parce que tu sais quoi ? Parce que justement, j'ai aucune envie de faire un conte de fées, en fait. J'ai aucune envie de dire... Je crois pas aux contes de fées, voilà. Mais donc je crois pas qu'il faudrait appliquer telle ou telle recette et que du coup, après, ça va aller, ils vécurent heureux et ils auront beaucoup d'enfants, en fait. Mais par contre, ce que je crois, c'est que, encore une fois, comme nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés, on va trouver notre chemin vers ça et que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'échecs, de remises en question, de questionnements. Des fois, on va se sentir perdu et tout. Mais moi, je crois que... Là, il y a vraiment un désir, pas chez tout le monde, hein, mais chez pas mal de mecs en réalité aussi. Là, je parle que de l'hétérosexualité hein, dans ce cas-là. Mais d'inventer des relations qui soient véritablement égalitaires et qui soient riches et qui soient profondes. Et ça peut prendre plein de formes. Ça va être des mecs qui vont décider d'aller faire des thérapies, en fait. Combien de meufs ont dit à leur gars, va chez le psy, s'il te plaît, quoi. Il y en a plein qui ne le font pas, et il y en a qui y vont. Et véritablement, ils changent, et ils essaient de s'améliorer, et ils essaient de faire en sorte que ça va mieux. Et je pense qu'en fait, tout va changer à partir du moment où on va considérer que nos relations affectives sont au centre de notre vie, que ce sont des sujets importants, qu'on n'a que ça, en fait. C'est plus important en fait que le travail ou autre chose. C'est comment on prend soin des relations que nous vivons. Et j'entends et je lis plein d'exemples de ça, des histoires très tristes, mais aussi des histoires belles, quoi, de gens qui ont décidé de continuer à grandir et peut-être et la forme que prend la relation n'a pas tellement d'importance, qu'on soit en polyamour, en couple exclusif sexuellement. Ou je crois pas tellement que ça dépende de ça. Parce qu'en fait, dans le polyamour, il peut y avoir aussi beaucoup de violence et beaucoup de domination. Donc, ce n'est pas une histoire de plaquer un modèle ou de suivre une recette et tout ça. C'est plus sur cette démarche de comment on va s'engager pleinement de tout notre être, y compris avec nos corps, nos émotions, notre passé, notre créativité, dans nourrir de belles relations avec les autres. Et que ça, c'est révolutionnaire. Et pas juste pour être confortable dans le monde tel qu'il est, parce que le monde tel qu'il est horrible, en fait, mais que... Je pense que c'est à partir de ce socle-là de très belles relations qu'on peut et qu'on est en train de créer les uns les unes avec les autres, qu'on peut faire la révolution aussi.
Bon, tu viens de répondre à la question, c'est pour quand la révolution, donc je vais la passer. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Je sais de sources sûres que l'autrice Mona Chollet, qui a vraiment beaucoup apporté au combat féministe, enfin à la réflexion féministe plutôt ces dernières années, est en train de travailler aussi sur l'amour. On attend tous impatiemment que son livre sorte. Pourquoi c'est important de parler d'amour en ce moment? Est-ce que dans un contexte un peu d'actualité, enfin je veux pas faire le truc un peu obvious, mais on est en pleine pandémie, ouais. Les gens meurent, les crises économiques est abominable. Le fascisme monte, ça peut paraître surprenant en fait que les grandes penseuses de l'époque se penchent sur l'amour. Pourquoi, à ton avis, ça devient un sujet aussi urgent?
Parce que c'est un lieu de résistance politique, j'en suis sûre. On ne va pas pouvoir résister à la fascisation de la société si on n'a pas des liens très très forts entre nous en fait. Et c'est d'abord ce que font tous les régimes autoritaires et tous les régimes fascistes en premier. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt en fait, de montrer comment... ces régimes-là ont à cœur de massacrer les relations entre les gens et de faire en sorte que les enfants dénoncent leurs parents et de faire en sorte que les gens se montent les uns contre les autres, d'organiser la compétition de tous contre toutes et de nous tous ensemble. Et je pense que si on forme ces liens véritablement riches, véritablement profonds et égalitaires, on sera beaucoup plus fort et plus forte pour résister à l'autoritarisme et à ce qu'on peut appeler une fascisation en ce moment de nos politiques et de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est un lieu de résistance.
D'urgence.
Ouais.
Victoire, ça évoque quoi pour toi, la poudre ?
La poudre magique de la fée Clochette.
Que tu as mis sur tes paupières
J'ai
aujourd'hui.
J'ai mis sur mes paupières pour toi, oui.
Merci infiniment, Victoire.
Merci, Lorraine.
Merci. Merci à Victoire Toyon d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci encore mille fois à toute l'équipe de l'Opéra de Lyon d'avoir permis cette rencontre. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.